La Bible divise la nature humaine en deux parties distinctes. L'homme intérieur, constitué par son esprit, et l'homme extérieur, formant son corps physique. L'un doit absolument être dissocié de l'autre, afin de lui permettre de vivre en paix avec lui-même. Le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, décrit nettement cette scission exemplaire. Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Un cheminement progressif est donc essentiel à l'équilibre psychique et spirituel. Pour parvenir à humer le parfum d'un flacon, il faut pour le moins l'ouvrir, car attacher la moindre valeur au contenant est vain comparé au contenu. Le corps est donc bien moins important que ce qu'il contient, c'est-à-dire l'esprit. Or, seul le spirituel a été créé à l'image de Dieu. C'est donc la libération du contenu qui importe en tout point, et non l'inverse. Le premier est permanent, alors que le deuxième est destiné à disparaître. De cette libération dépend donc la paix intérieure sans laquelle nous ne pouvons vivre une existence équilibrée normale. Mais nos pensées, nos émotions, nos réactions sont malgré tout liées à l'homme externe, puisqu'elles ne peuvent s'extérioriser sans son aide. Néanmoins, la paix intérieure ne se manifestera en toute liberté qu'une fois une certaine certitude acquise, la présence en nous de Dieu. Seul cet élément est garant d'un bon chemin de l'esprit. Notre bonheur dépend de cela, de la possession mentale et spirituelle d'une vérité incontestable dont les influx et les effets ne peuvent venir que de l'homme intérieur, et qui guide l'ensemble de nos facultés internes ou externes, cette vérité étant la certitude de suivre le chemin tracé par Dieu. Tant que l'homme est à la recherche d'une voie à suivre, son esprit, son être intérieur, ne peut se développer, s'épanouir librement, obtenir la paix. Ceci nous amène à faire connaissance avec un principe fondamental. Seul, une victoire inconditionnelle de l'homme intérieur sur l'homme extérieur peut produire la paix durable sans laquelle il ne peut vivre ou durer valablement à ses propres yeux. À la question du jeune homme dont l'unique souci était probablement la gestion de sa fortune, Jésus dit « Vends tout ce que tu as et puis viens, suis-moi ». À celui qui veut suivre Jésus, mais tente d'obtenir un certain délai pour prétendument enterrer son père, il rétorque « Laisse les morts enterrer les morts. » Autrement dit, « Laisse les morts charnels enterrer les morts charnels. » Ça n'a rien à voir avec ton désir de me suivre. À Nicodème, dirigeant religieux juif, qui désire être sauvé, il précise « Il faut naître d'eau et d'esprit. » Le sentiment de ce symbolisme est ici plus qu'évident et sépare bien les deux éléments, le physique et le spirituel, l'extérieur et l'intérieur de l'homme. Cette paix tellement nécessaire à chaque individu, il n'y a que le Fils de Dieu qui puisse l'accorder. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. En quittant ses disciples pour retourner auprès de son Père, Jésus veut leur laisser une quiétude intérieure parfaite, telle qu'il la discerne en lui-même. Cette paix résulte chez Jésus, qui dans quelques heures va devoir faire face à son arrestation et à tout ce qu'elle comporte. Une confiance vraiment absolue dans l'amour que le Père lui voue inconditionnellement. Il désire ardemment la vie communiquée. Sa propre paix va passer en eux. Il la puise dans son propre trésor psychique. Je vous donne ma paix. Un fait est évident. Le Fils ne souffre pas de solitude, malgré le supplice imminent. Il veut rester seul durant cette période de temps, mais il n'est pas solitaire. Matthieu, Luc et Jean décrivent cela dans des termes que voici. Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. C'est Matthieu. Jésus se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Nous dit Jean. Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit dans la prière. Voilà de Luc. Il faut éviter de confondre ce qu'impliquent les trois situations suivantes. Être isolé, être solitaire, être seul. Être isolé, tout d'abord, consiste à être séparé physiquement de ses semblables, c'est-à-dire de ne pouvoir communiquer, toucher l'un de ses semblables. Il est possible toutefois d'être isolé sans, pour cela, être solitaire. Cela constitue parfois un soulagement que d'être physiquement seul pour un temps. En effet, l'isolement physique, fréquent ou non, peut très bien être ressenti comme étant positivement nécessaire à notre équilibre et même constructivement dans son aspect de recul volontaire par rapport à certaines circonstances ou événements. Être solitaire peut ne pas faire partie d'un contexte d'isolement dû aux circonstances, ni d'un choix délibéré durant une certaine période. Nicky Cruz, dans son livre intitulé « Solitaire n'est pas seul », donne de l'isolement la définition suivante. Il s'agit d'un sentiment consistant à se sentir frustré par rapport aux autres, ou encore de se sentir rejeté par les autres. La sentimentalité joue un très grand rôle dans l'isolement. Être seul, par contre, est un état qui peut être dû à un accident de la vie, tel qu'un décès ou un divorce. On peut aussi se mettre volontairement à l'écart, pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises. Cet état, d'après Paul Tichit, psychologue bien connu, estime qu'il peut être conquis uniquement par ceux qui savent comment demeurer seul, traiter créativement la vraie solitude, produit une sorte de puissance. On peut accomplir un nombre de choses en tissant la souffrance engendrée par le fait d'être seul pour en faire une vie fructueuse. Fin de citation. La solitude peut également produire une psychose de rejet, car on peut se sentir seul même en vivant parmi ses semblables. Dans ce cas précis, une chose est à éviter à tout prix, c'est-à-dire s'apitoyer sur son propre sort. Il faut absolument arriver à pardonner à ceux qui, peut-être, vous font de la peine en vous rejetant. C'est là une des forces positives à tirer de l'action négative des autres. Trois choses principales conduisent à la solitude. La première est l'égoïsme. Si vous souhaitez être malheureux, vous devez penser à vous-même, à ce que vous voulez, à ce que vous aimez, au respect que les gens devraient vous accorder, alors que pour vous, rien ne sera pur. Vous abîmerez tout ce que vous toucherez, vous transformerez en péché, en tristesse, tout ce que Dieu vous enverra. Vous pouvez être ainsi malheureux et aussi malheureux que vous choisissez de l'être. La deuxième est de systématiquement grossir tous les problèmes, toutes les douleurs ou tous les chagrins minuscules qui tissent l'existence et les raconter à tous ceux qui veulent bien les entendre sans oublier un seul détail. La troisième est de rabaisser les autres pour pouvoir vous donner ainsi plus d'importance. Mais il faut surtout le faire au moment où cela apportera le mieux et fera le plus mal. Avoir l'esprit critique en tout, elle n'a rien raté. Voilà le secret. Je réalise qu'il y a un nombre de choses que j'ai passées sous silence, faute de temps. Mais notre désir, dans notre entretien ensemble, était d'éclairer les principales. Peut-être vous aura-t-il tout de même intéressé de connaître toutes ces choses.